heureux d'abord, heureux parce que c'était des années particulièrement intenses ces quatre dernières années avec le déménagement, avec l'après-Covid, après le retour de M2C qui n'était pas plus facile que le déménagement pour être honnête. Donc heureux et surtout une énorme reconnaissance à tous les acteurs qui ont permis de faire ça. Je pense à la ville, je pense à la population, je pense évidemment à mes collaborateurs qui ont cravaché pendant 4 ans et qui arrivent aujourd'hui avec la satisfaction d'un travail bien accompli. Et maintenant, on va pouvoir aborder la 61e édition avec sérénité.
Les chiffres d'ailleurs sont excellents, hein. Plus de 250 000 festivaliers, on avait plus de 700, je crois, concerts, activités proposées à la population. Au-delà des statistiques, finalement, qu'est-ce qui vous rend le plus fier de cette 60e ?
L'agilité, l'abnégation, encore une fois, par rapport à ce qu'on a, on a traversé. Moi, profondément, c'est la fierté de mon équipe. C'est une équipe de warriors à qui rien ne fait peur.
Ça vous a valu de l'émotion ?
Ah oui, oui, clair. Et puis je l'assume à 100% parce que je suis super admiratif de ce qu'ils font. C'est cette passion qu'ils mettent dans leur travail, dans cette envie. Et puis franchement, ce n'était pas des années simples. Et là, en plus, on avait l'impression de 60 ans. Donc il y avait beaucoup de choses. Et je trouve que je ressors cette édition vidée. Ça, c'est sûr, mais fier. Très fier. Fier et reconnaissant.
Vous êtes vidé, par contre les salles ne l'étaient pas. Hein. Les taux de remplissage affichés gros, 92% pour le Stravinsky. Le Lab atteint 88%, vous l'avez dit, c'est un record.
Oui, oui, parce que le Lab a quand même une capacité de 2300 places. Et on a fait un parti pris, ça c'était aussi l'apprentissage du déménagement avec une salle beaucoup plus mixée qu'elle n'était à l'époque. On a pris ce parti pris qui a pu surprendre à un certain moment de dire ben, on fait un Gregory Porter ou un Marcus Miller au Lab alors que normalement on les a toujours vus au Strav. Et puis moi j'ai adoré cette proposition parce que je trouve qu'elle fait sens. Certains ont pu voir dire « Ah, mais tiens, le Stravinsky fait du jeunisme et puis le Lab accueille les vieux. » Moi, pas du tout. C'était ce truc, finalement, ces deux salles qui se complètent. Et puis à ce moment-là, par rapport aux propositions qui sont faites, c'était les lieux qui correspondaient le mieux à ces artistes-là. Et je suis super content quoi, d'avoir pu faire ça. Et le résultat est là, en fait, avec ces taux de remplissage historiques.
Vous avez mentionné ces artistes iconiques, internationaux, on les appelle les légendes. Mais finalement, vous laissez une grande place aussi aux jeunes générations, aux artistes déjà là, mais aussi en devenir. C'est la formule gagnante finalement de ce Montreux Jazz ?
Ça a toujours été la formule de Montreux. Toujours cet équilibre savant. On a quand même 32 soirées à proposer chaque année dans les salles payantes. Cet équilibre, il est important dans la variété des styles, dans la variété des publics, dans les propositions des jeunes générations qui arrivent aussi aujourd'hui. C'est important pour nous qu'on soit le représentant de ce qui se passe dans la musique actuellement parce qu'on a le format qui nous permet de faire ça. Quand je dis ça, c'est que souvent les grands openers, de par les capacités qu'ils doivent remplir, sont obligés d'être dans quelque chose qui est plus formaté, enfin qui est plus lisible, on va dire, en termes d'attente. Montreux a cette possibilité de prendre des risques parfois, des risques qui peuvent surprendre, mais des risques qu'on aime. Et je pense que si Montreux ne fait pas ça, Montreux n'est plus Montreux. Et j'assume, on reste une fondation à but non lucratif où on a le droit de prendre des risques. Et c'est ce qui me plaît, en fait, dans ce festival.
Justement, en parlant de variété de style et de prendre des risques, c'est vrai que quand on entend Montreux Jazz Festival, peut-être pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, pensent peut-être à un festival pur jazz. On a des artistes électro comme Moby, comme Ben Mummer. Vous dites finalement, ça a sa place. On peut faire de l'électro issu du jazz, vous l'avez dit.
Ça a toujours été Montreux depuis le début des années 70. Même Claude se faisait assassiner quand il faisait du latino, quand il a commencé à faire du hip-hop avec Quincy dans les années 80, quand on a commencé à faire de l'électro et tout ça. Et puis je pense que ça fait partie de notre ADN où pour nous la musique et le jazz et cette notion de liberté, de partage, de communion comme sont les racines du jazz et j'ai bien aimé en fait cette année finalement c'est les artistes qui ont donné cette réponse hein, d'une Noga RS qui dit ben, finalement Bowie c'est jazz, Radiohead c'est jazz et moi je suis jazz, d'entendre un Yusuke Matsuke qui a pur électro et qui fait tout d'un coup toute une partie de son set en remixant du jazz, j'ai trouvé ça juste incroyable, d'avoir des Sienna Spiro qui est dans la salle et qui se revendique complètement de l'esprit jazz. Donc finalement la réponse elle est donnée par les artistes ou Liniker qui est artiste brésilien qui lui aussi se revendique de toutes les grandes stars brésiliennes qui ont marqué l'histoire du Montreux Jazz. Donc voilà, pour moi la réponse elle est là. J'ai jamais aimé la stigmatisation ni du public ni des styles. Pour moi la musique c'est un pont entre les générations, c'est un pont entre les cultures, ça doit être apolitique et je crois que c'est ce qu'on a présenté aujourd'hui.
Cet esprit de communion, on l'a retrouvé dans les différentes soirées, notamment cette soirée d'ouverture avec Ray et Alicia Keys sur scène. Qu'est-ce que ça représente pour vous de voir des artistes finalement s'approprier le Montreux Jazz, mais aussi Montreux au-delà de ça? On voit sur les réseaux sociaux ces photos de ces artistes dans le lac, non loin du Montreux Palace. J'imagine que ça fait quelque chose.
Ouais, ça fait du bien parce que c'est représentatif et un gros clin d'œil à Claude Nobs qui aurait eu 90 ans cette année et qui lui a insufflé cette notion d'hospitalité dans le festival et cette notion du temps aussi, où l'artiste peut prendre du temps. C'est parfois irrationnel parce qu'il reste 3 nuits, ils sont 40 et ça coûte dans les nuits d'hôtel, mais on voit que ça donne une dimension qui est complètement différente, où l'artiste s'approprie la région. Et de nouveau, quand on voit une génération comme Zara Larsson qui finit sur les quais, aller se baigner, qui discute avec le public, qui dit en fait finalement c'est le Hawaï suisse de Alicia Keys qui va se baigner, Ray qui va se baigner, enfin c'est...
Voilà,
c'est...
Et qui mange aussi au jazz.
Ouais, bien sûr, qui mange sur les quais, enfin c'est merveilleux avec notre public, parce qu'il y a cette admiration de l'artiste, mais il n'y a pas ce fanatisme. Moi je marchais avec Alicia Keys dans la rue, puis les gens ils passent à côté, ils disent « Hello Alicia !» Puis elle dit « Hello !» Puis voilà, on s'est retrouvés au Belvédère, où Alicia dansait au milieu de tout le monde. Puis il y a même personne qui sort son téléphone pour prendre une vidéo, puis tout le monde est là « Coucou !» Et en fait, ça fait du bien dans un monde de cette digitalisation où on capture chaque moment, chaque instant qui se passe, d'avoir en fait ces moments qu'on vit pleinement, et merci au public d'être comme ça, parce que les artistes, ils le reconnaissent et ils le vivent, et c'est génial. En fait, pour nous, c'est génial d'avoir un public comme ça, qui respecte l'artiste, mais qui vit le moment à fond. Donc je trouve ça super.